Page 4-5. Début du dossier focus de ce numéro, dédié au centenaire de la naissance de Lyndon LaRouche. Page 4. Centenaire de Lyndon LaRouche pour un nouveau Bretton Woods contre la guerre et la vie chère. Donc c'est un article rédigé par Christine Bière, rédactrice en chef de Nouvelle Solidarité. Et donc l'image qui accompagne cet article, c'était une photo de Lyndon LaRouche qui est en train de caresser un âne. Et donc avec la légende suivante, LaRouche adorait les animaux, mais il savait que la créativité est le propre de l'homme. Introduction. En ce 8 septembre, l'économiste américain Lyndon LaRouche, figure de proue aux États-Unis de l'opposition à toute forme d'empire, aurait eu 100 ans. Étant donné l'actualité du sujet, voici en résumé sa vision de ce nouveau Bretton Woods qu'il appela de ses vœux. Revenons sur son principal combat. Refaire de l'économie mondiale une économie productive où chacun puisse vivre de son travail, en organisant un nouvel ordre économique mondial juste, inspiré des principes énoncés lors de la conférence des pays non alignés à Bandung et des conceptions économiques défendues par Franklin Roosevelt dans son projet initial pour Bretton Woods, hélas dévoyé après sa mort. Sa source d'inspiration fut l'économiste et père de la République américaine, Alexander Hamilton, pour qui la source de la richesse n'est pas dans la monnaie ou le sous-sol, mais dans les découvertes scientifiques et leur application au processus de production, permettant d'en augmenter la production et d'en réduire ses coûts, pour satisfaire les besoins d'un plus grand nombre. Par exemple, avec 1,86 g d'uranium, on produit autant qu'avec 30 barils de pétrole. C'est sur cette base que Lyndon LaRouche établit le critère pour une économie productive comme étant la capacité d'une société à porter une population de plus en plus nombreuse en bonne santé en tenant compte des réalités sociales et géographiques. Niveau de ressources. Pour mesurer ce potentiel de densité démographique relatif, comme il l'appelait, au niveau d'une nation, et assurer qu'il augmente d'année en année, le taux de plus-value nette, non monétaire mais réel, du cycle annuel, qu'on appelle P', après déduction de toutes les dépenses nécessaires mais non directement productives, comme la recherche et développement, les écoles, la santé, les administrations et les infrastructures publiques, doit croître. Et ceci par rapport à la somme de deux grandes catégories d'investissement, biens d'équipement et infrastructures, C, et biens physiques requis pour l'entretien des ménages qui produisent, qu'on appellera V. Cet instrument de mesure de LaRouche fut adopté par l'Académie des sciences de Russie sous l'abréviation LA. Le combat de LaRouche auprès des non-alignés, qui l'amena à rencontrer Indira Gandhi, López Portillo et d'autres grands dirigeants, s'est concentré à partir de 1975 sur la création d'une Banque internationale pour le développement, BID, qui prêterait à long terme et à bon marché aux pays en développement pour leur permettre de s'industrialiser. La BID allait à l'encontre des conceptions néocoloniales de la Banque mondiale pour laquelle de grands projets ne pouvaient réussir dans les pays en développement. D'ailleurs, elle ne prête aujourd'hui que pour de mini-projets dits appropriés, par exemple des fours solaires dans des villages, et à des conditions non seulement onéreuses, mais politiques. Tout autre était la conception du Bretton Woods de Roosevelt avant sa mort. Durant les années 30, les États-Unis ont prêté des capitaux à long terme et à bon marché à des pays d'Amérique latine et d'ailleurs pour s'industrialiser. Les grands projets engagés au Brésil avec l'aciérie de Volta Redonda restent la preuve la plus éclatante qu'une telle politique peut réussir. Mais là où LaRouche et ses amis se sont sentis pleinement récompensés pour des années de militantisme international, ce fut lors de la création, en 2014, par les BRICS, le groupe Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, de la nouvelle Banque de Développement, NBD, et par la Chine de sa propre Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures, BAII, créée dans la foulée du lancement de son remarquable projet de nouvelle route de la soie. Seule l'adoption de ces conceptions permettrait aujourd'hui d'assembler dans un nouveau Bretton Woods les principales puissances et pays du monde, chacun avec son propre modèle politique et d'éviter ainsi une nouvelle guerre et un krach financier mondial. La tragédie de notre époque, c'est que l'homme dont les idées auraient permis d'éviter cette débâcle a été diabolisé, injustement condamné et jeté en prison. Donc pour en savoir plus sur la vie de Lyndon LaRouche et ses idées, vous pouvez aller voir sur le site de Jacques Cheminade, jaccheminade.fr, le texte qu'il a rédigé et qui s'intitule « Ce que sont pour moi Lyndon et Helga Tsep-LaRouche ». Page 5. Nouveau Bretton Woods, un nouveau monde est en train de naître. Donc une photo accompagne cet article qui a été écrit par Karel Verheyken, directeur de publication de Nouvelle Solidarité. Cette photo, on voit dessus donc Helga Tsep-LaRouche, l'épouse de Lyndon LaRouche. En 1982, elle est aux côtés du président mexicain José López Portillo. La seule véritable alternative à la guerre et à la vie chère est un nouveau Bretton Woods. Lisez pourquoi. Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. J'espère que la partie américaine comprend parfaitement cela. A affirmé sagement Xi Jinping lors d'un entretien avec son homologue Biden fin juillet, peu avant la énième provocation anglo-américaine à propos de Taïwan. Pour ce qui est du système dollar, le même principe s'applique. Or, l'anglosphère, à savoir les États-Unis, l'Union européenne, la City de Londres, Wall Street et leurs confettis d'empire, s'est érigée, au nom du monde occidental, en oligopole financier et politique absolu, en possession d'un dollar militarisé, frappant tous ceux qui lui portent ou pourraient lui porter ombrage. Avec des sanctions toujours plus mortifères, avec une extraterritorialité s'appliquant à toute transaction en dollars, avec la confiscation des avoirs en or, en devises et en biens, non pas de régimes, mais de pays inamicaux, ainsi que leur exclusion des mécanismes de paiements internationaux, cartes de crédit, système SWIFT, etc., rien d'étonnant que de vastes régions du monde finissent par chercher leur salut ailleurs. Une réalité confirmée par Pierre-Olivier Gourinchas, directeur du FMI, qui estime que les mesures adoptées par les Américains et les puissances occidentales, telles que la confiscation des avoirs de la Banque centrale russe, sont une telle source de préoccupation pour les autres pays qu'elles pourraient les amener à quitter en masse le système du dollar. Déjà, bon nombre de ces pays ont intensifié leurs échanges de services et de biens, en particulier en hydrocarbures, en minerais stratégiques, produits agroalimentaires et technologies de pointe. Pour faciliter ces échanges, de nouveaux corridors de transport voient le jour, comme le corridor de transport multimodal Nord-Sud, INSTC, reliant l'Inde à la Russie en passant par l'Iran, ainsi que la mutualisation de systèmes de paiement qui se font de plus en plus en devises nationales. Roubles, yuan, roupies, rial iranien, etc. Lorsque les Indiens achètent du charbon ou du ciment en Russie, ils payent en yuan qu'ils obtiennent de leurs banquiers chinois en échange de dollars et de roupies. L'Indonésie, l'Argentine et maintenant l'Algérie se pressent pour rejoindre le groupe des BRICS, de même que l'Iran qui espère également devenir membre de plein droit de l'OSC. Donc l'OSC, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai. Et donc l'Iran qui propose la création d'une devise commune pour échanger entre membres du groupe. Dès 1971, détricotage de Bretton Woods, Lyndon LaRouche avait mis en garde contre une dynamique favorisant un capital fictif, c'est-à-dire une bulle financière, prospérant au détriment de l'économie physique et des populations qui en dépendent. Si rien n'est fait pour enrayer cette dynamique prédatrice, avertissait-il, le capitalisme agro-industriel de l'après-guerre se mutera en capitalisme financier d'abord, puis en capitalisme criminel et belliqueux. Malheureusement, il a eu raison et le défi à relever reste entier. Pour éviter de sombrer dans la division, le chaos, la pauvreté et la guerre, affirmait LaRouche, un nouveau Bretton Woods sera incontournable. Dans le texte que nous présentons ici, c'est-à-dire dans les pages suivantes, les pages 6 à 7, il précisa qu'il devait se réaliser en deux temps. Après la création de coopération régionale défensive hors système FMI, les grands acteurs mondiaux devraient se réunir au sommet pour jeter les bases d'un nouveau système financier mondial plus juste, mettant fin à l'hégémonie d'une seule devise et posant l'exigence d'un développement économique partagé par toutes les nations, comme le prévoyait le projet original de Roosevelt, malheureusement dévoyé après sa mort. Depuis 2015, ainsi que Larouche l'avait anticipé, une véritable réflexion est en cours sur ce sujet parmi les membres des BRICS. Donc on rappelle, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et plus récemment entre membres de l'OSC, l'Organisation de coopération de Shanghai, et d'autres pays qui les ont rejoints depuis. Ils sont déterminés à passer à l'action. Pour notre part, le sommes-nous aussi ? Donc pour aller plus loin, pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de solidaritéetprogrès.fr et rechercher ce document de fond qui s'appelle « Ce vrai Bretton Woods que l'oligarchie nous a si bien caché ».